L'heure du journal avec Cécile Bideau, bonsoir.
Bonsoir. Les fumées éclipsent le soleil en Grèce. Les pompiers luttent toujours contre une cinquantaine d'incendies. Des Français viennent d'arriver pour leur prêter main forte, mais sur le terrain, la désorganisation est totale. Nous allons sur place dans un instant. La France tient son calendrier de mise en œuvre du pass sanitaire. La loi est déjà promulguée. Dès lundi, il faudra avoir son QR code à portée de main dans beaucoup de circonstances. La mesure qui prévoit une suspension du contrat de travail en cas de défaut de pass est encore très controversée. Les chefs d'entreprise vont avoir des cas de conscience, dit le MEDEF. Moins de cas de conscience aux États-Unis. 3 salariés de la chaîne de télévision CNN ont été licenciés car ils n'étaient pas vaccinés. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans ce journal, le dessous des cartes du départ de Lionel Messi de Barcelone. Comme souvent sur la planète football, c'est une histoire de gros sous. Et puis nous irons à Tokyo où les basketteurs français s'apprêtent à disputer une finale olympique historique contre les États-Unis. On le voit, à chaque JO, c'est sportif. Nous fascine, nous inspire parfois. Bonsoir Xavier Demani.
Bonsoir.
C'est le thème de votre téléphone sonne ce soir.
Ah oui, qu'est-ce qui nous pousse à regarder pendant des heures parfois ces épreuves? Qu'est-ce qui nous plaît, nous attire dans les performances des athlètes? Leurs prouesses, les éclats de joie, les larmes, les combats. On en parle tout à l'heure au téléphone sonne, vos questions, vos témoignages. C'est comme d'habitude au 01 45 24 7000 par mail ou sur l'application France Inter.
À tout à l'heure dans un quart d'heure. Le ciel bleu de Grèce est toujours obscurci par d'épaisses fumées noires. Plus de 50 incendies sont encore actifs et des milliers d'habitants fuient leurs maisons, parfois par la mer, comme sur l'île de Bé. Les vents brûlants et les températures caniculaires attisent les flammes et le feu est désormais aux portes d'Athènes. 80 pompiers français venus de Brignoles dans le Var sont arrivés hier soir en renfort dans un chaos indescriptible. Julie Pietri, vous êtes à leur côté dans le secteur de Malakassa, à 40 km au nord d'Athènes. Bonsoir.
Bonsoir.
Seule une quarantaine ont pu être déployés sur le terrain aujourd'hui.
Oui, ils étaient garés en bord de route avec vue sur le feu qui ronge peu à peu les collines, les maisons. Mais les pompiers français sont à l'arrêt. Ils n'ont pas de camion d'intervention. Les autorités locales les ont empêchés tout l'après-midi de rejoindre des collègues grecs auxquels ils auraient pu se greffer pour travailler. Le feu était visiblement trop dangereux pour laisser approcher même les renforts.
It's okay for you. We can try to go in a fitness.
Rien n'est ok en fait. Les autorisations n'arrivent pas. Le groupe de sapeurs-sauveteurs patiente.
Un peu chaotique, concrètement. Il y en a partout en fait.
Les feux semblent en effet partout. Même l'autoroute très fréquentée qui lie Athènes au secteur de Malakassa à 40 km au nord a dû être interdite d'accès sur toute une portion cet après-midi. Les flammes léchant ses bordures. La situation est critique.
Les sapeurs-pompiers grecs font de leur mieux. Ils doivent faire des choix. Ils ne peuvent pas attaquer le feu sur tous les fronts.
Le lieutenant-colonel Didier Talbot dirige l'équipe française.
Comme on a pu le voir en passant sur la route, il n'y a quasiment pas d'engins porteurs d'eau. Des militaires grecs en train d'abattre des arbres, de dégager un peu les buissons. Nous, on arrive avec du sang frais. Forcément, ça leur donne un petit regain au moral.
L'espoir de stopper ces gigantesques feux vient pour beaucoup du ciel, des avions grecs et européens envoyés petit à petit en renfort. 2 canadairs français sont arrivés sur place aujourd'hui.
Julie Pietri, envoyée spéciale de France Inter en Grèce avec les moyens techniques d'Éric Audra. Les images de ces incendies sont à voir sur franceinter.fr. Tir de roquettes contre frappe aérienne ciblée. Cela fait maintenant 3 jours que le Hezbollah et Israël se répondent au sud Liban. Les Nations Unies s'inquiètent de cette escalade qu'elles qualifient de très dangereuse. L'armée israélienne n'avait pas officiellement ciblé des positions au sud Liban depuis 2014. Aujourd'hui, on note un calme relatif, mais la situation reste tendue. À Jérusalem, Michel Paul.
Les deux parties, Israël et le Hezbollah, semblent vouloir calmer le jeu. Israël dit ne pas vouloir d'escalade, tout en affirmant se tenir prêt à toute éventualité. « Nous ferons ce qui est nécessaire », souligne un porte-parole militaire israélien. Ce sont en tout 19 roquettes qui ont été tirées en fin de matinée ce vendredi sur la Haute-Galilée, en provenance du territoire libanais. 10 d'entre elles ont été interceptées par le système antimissile Dôme de Fer. Les autres sont tombées sur les flancs du mont Hermon, sans faire ni victimes ni dégâts. De son côté, Israël a fait usage de son aviation et de l'artillerie, mais les cibles de part et d'autre sont des zones inhabitées. Alors pour les Israéliens, c'est en fait l'Iran qui se cache derrière ces attaques depuis le sud Liban et aussi dans le golfe Persique. Pour Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, la réponse israélienne est un message adressé à Téhéran. Israël, affirme-t-il, est prêt à l'offensive contre l'Iran. Jérusalem, Michel Paul, RFI. Pour France Inter.
Aux États-Unis, on manie la carotte et le bâton pour inciter la population à se faire vacciner. Hamburger gratuit, bière offerte après l'injection et même des bons d'achat en échange de la preuve d'une vaccination, d'un côté. Mais de l'autre, l'obligation vaccinale qui prend de l'ampleur. Certaines entreprises et collectivités n'hésitent pas à sanctionner les salariés récalcitrants à la piqûre. Ainsi, la chaîne de télévision CNN vient de licencier 3 personnes. Depuis New York, les précisions de Loïc Loury.
Une tolérance zéro pour les contrevenants, assure le patron de CNN dans un mémo interne. 3 employés de la chaîne non vaccinés ont été poussés dehors. La règle était claire, télétravail ou vaccin obligatoire et un système basé sur la confiance que ces salariés n'ont visiblement pas respecté ces dernières semaines. Le débat sur l'obligation vaccinale aux États-Unis a pris de l'ampleur. De grandes entreprises imposent le vaccin ou des tests réguliers. C'est le cas de Microsoft, Disney ou du géant de la distribution Walmart. Des États ont aussi commencé à franchir le pas pour leurs fonctionnaires, la Californie et désormais la Virginie, sans compter l'arrivée prochaine à New York d'un pass sanitaire à la française. Joe Biden, lui aussi, a pris le train en route en imposant le vaccin à des millions de fonctionnaires fédéraux. Tout cela histoire de contrer la propagation du variant Delta dans un pays où la campagne vaccinale tourne désormais au ralenti. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'obligation vaccinale en France concernera les soignants à partir du 15 septembre. Dans les entreprises où les salariés sont en contact avec le public, le pass sanitaire, vaccination ou test négatif sera obligatoire à partir du 30 août. Ceux qui ne voudront pas se conformer à la loi pourront voir leur contrat de travail suspendu. Une disposition qui sera difficile à appliquer pour les patrons, selon leurs représentants, le président délégué du MEDEF, Patrick Martin.
Ça sera très compliqué pour une entreprise, pour toutes sortes de raisons, hein, d'engager une procédure de licenciement contre un salarié qui ne se conformerait pas au pass sanitaire. Le texte reste malgré tout un peu ambigu, et puis après il y a un aléa normal, hein, qui est celui de la décision d'un conseil des prud'hommes si le salarié exerce un recours. Et puis il faut surtout souligner qu'on est dans une période de grandes difficultés de recrutement, et donc les entreprises hésiteront à se séparer d'un salarié, et a fortiori d'un salarié qui par ailleurs donne satisfaction. Et donc ça sera un cas de conscience pour les chefs d'entreprise, si on peut suspendre un contrat de travail qui, je le rappelle, emporte le non-versement de la rémunération pendant 2 mois. Déjà, ça nous rapproche de l'échéance du 15 novembre, qui est la limite d'application de la loi d'urgence sanitaire. Et puis, je pense que ça fera réfléchir les deux parties, l'employeur évidemment, mais également le salarié.
Le président délégué du MEDEF, interrogé par Céline Asselot sur France Info. La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée dès ce matin, quelques heures seulement après le feu vert des sages. Les décrets ont déjà été publiés au journal officiel, preuve que l'exécutif veut aller vite. Le pass sanitaire entre en vigueur dès lundi dans les cafés, restaurants, foires et salons, dans certaines circonstances dans les centres commerciaux, dans les transports également, lorsque l'on quitte sa région par avion, autocar ou train. À la SNCF, les TGV, intercités et trains internationaux sont concernés. Vous retrouvez toutes les précisions sur le site internet de France Inter. La jauge de 50 personnes à partir de laquelle le pass sanitaire était obligatoire dans les cinémas, les salles de spectacle ou encore les musées est supprimé. À partir de lundi, il sera exigé dès le premier spectateur ou visiteur. Le défaut de passe sera sanctionné par une amende de 135 euros, mais le gouvernement promet une tolérance pour la semaine prochaine. Malgré la mise en application de la loi, ou plutôt à cause d'elle, les manifestants hostiles au pass sanitaire restent mobilisés. Demain, ce sera le 4e samedi de manifestation. Le ministère de l'Intérieur s'attend à voir défiler 200 000 personnes comme la semaine dernière. 170 actions sont annoncées, dont 4 à Paris, avec encore un important dispositif de force de l'ordre pour éviter les débordements. Des débordements, il y en a eu aujourd'hui à Toulouse. Les locaux de l'ordre des infirmiers ont été vandalisés, des vitres brisées par des jets de pierre et des inscriptions non au pass. Le pass sanitaire et la vaccination qui divisent jusque dans les familles. Reportage à Strasbourg de Théo Hetsch.
Si je vous parle vaccin, je perds ma femme. Voilà comment mon reportage a commencé, pour illustrer la tension qui peut exister au sein des familles. Sans aller jusque-là, Maëlle, qui ne veut pas se faire vacciner, a de plus en plus de mal à en discuter avec sa maman.
Alors, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas vraiment de dialogue, mais voilà, elle respecte mon choix. C'est libre à chacun de croire ou de pas croire en fait ce qui est en train de se passer.
La jeune employée en restauration est inquiète pour la suite de sa relation.
Je pense que le vaccin est en train de faire beaucoup plus de dégâts dans la vie des gens. Et en fait, au lieu de s'unir, on est tous en train de se diviser. Donc je trouve ça, pour moi, c'est un petit peu disproportionné.
De même, Marie a de plus en plus de difficultés à exprimer sa position à ses amis.
C'est pas seulement le vaccin, c'est le pass sanitaire. Devoir montrer ça pour pouvoir vivre, ben non.
Et ça, vous arrivez à en discuter avec d'autres gens?
Alors, avec des gens qui pensent comme moi. Mais avec les gens qui sont vaccinés, c'est pas la peine. Ils ont les yeux fermés, ils ont des œillères. Enfin, ils veulent rien comprendre. Tant pis pour eux. Hein.
Vous avez perdu des amis, carrément, ou pas jusque-là?
Non, pas jusque-là, pas encore.
Pas encore. Ça pourrait venir?
Ça pourrait, oui, ça pourrait. Il y en a quelques-unes qui m'appellent plus parce que je pense pas comme elles. Bon, tant pis, hein.
Des contacts rompus, des tensions sous-jacentes qui remontent. Près de 4 Français sur 10 estiment que la crise sanitaire a dégradé leurs relations familiales.
Théo Hetsch de France Bleu Alsace. Alors que certains pays ont déjà commencé à administrer la troisième dose de vaccin ou envisagent de le faire, comme la France, l'Agence européenne des médicaments juge que c'est encore trop tôt. Elle estime qu'il n'y a pas assez de données sur le temps de la protection vaccinale pour recommander un rappel. Un adolescent de 16 ans est mort ce matin dans un accident de minibus sur l'autoroute A75 dans le Cantal. Avec un groupe originaire d'Amiens, ils se rendaient en colonie de vacances au Cap d'Agde. Leur véhicule est entré en collision avec un poids lourd.
France Inter. Cécile Bideau.
Mais oui, Messi et Barcelone, c'est bel et bien fini. Quelques heures après l'annonce du divorce entre le footballeur argentin et le club où il brille depuis 20 ans, les supputations vont bon train sur l'équipe qui remportera le gros lot. Cet après-midi, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a botté en touche sur le sujet, car Lionel Messi coûte cher, très cher. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Cécile.
C'est d'ailleurs pour cela que le Barça s'en sépare.
Les chiffres parlent. Son salaire est estimé à 75 millions d'euros nets par an. Et la situation économique du club est critique, avec 487 millions d'euros de pertes sur la saison écoulée. Dans ces conditions, impossible pour le président Joan Laporta, élu en mars, de prolonger le contrat de Messi en conciliant le salaire XXL du joueur et le plafond salarial imposé par la Ligue espagnole de football.
La masse salariale sportive représente 102% des investissements totaux du club. Ça veut dire que nous n'avions aucune marge salariale et qu'il aurait fallu hypothéquer les droits TV du Barça sur 50 ans. Et cela, au moment de prendre la décision pour le bien de l'institution Barça, je ne suis disposé à le faire pour personne.
Même donc pour le meilleur joueur du monde, il faut dire que seulement quelques clubs peuvent s'offrir Lionel Messi. Mais l'entraîneur espagnol de Manchester City en Angleterre, Pep Guardiola, a repoussé déjà l'hypothèse de sa venue. Quant à l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, vous en parliez. Il a lui décidé de botter en touche tout à l'heure, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Merci Alexandre Vaux. Et il est temps d'achever le mercato, hein, car le championnat de France de Ligue 1 commence ce soir. Monaco accueille Nantes en match d'ouverture. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, ça aurait pu être un sans faute pour les sports collectifs en salle français. Ce sera finalement 4 sur 5. Les handballeuses sont en finale. Ce sera à suivre dimanche face aux Russes. En revanche, les basketteuses s'arrêtent en demi. Défaite par le Japon 87-71. Elles pourront rebondir demain et remporter le bronze. Chez les hommes, les volleyeurs, les handballeurs et les basketteurs sont en finale. Première entre deux en basket demain, ou plutôt cette nuit, puisque le match contre les États-Unis débute à 4h30 du matin. En fait, le principal diffuseur de ces JO dicte sa loi, Vincent Pellegrini.
En 2014, NBC a déboursé près de 8 milliards de dollars pour s'octroyer les droits de diffusion des Jeux jusqu'en 2032. Un contrat record par son montant et sa durée. Cela donne des droits de regard sur la programmation des Jeux. Le CIO a dû se plier aux exigences de la chaîne de télévision américaine. C'est pour cette raison qu'à ces Jeux, les finales de natation et certaines finales d'athlétisme se sont disputées le matin à Tokyo, en pleine nuit, en Europe, en soirée, aux États-Unis. Et la finale de ce tournoi masculin de basket fait partie de ces événements majeurs pour NBC, d'autant que la participation de l'équipe américaine à ce match était très probable. Cette finale va donc débuter à 22h30 sur la côte est des États-Unis, à 4h30 en France et à 11h30 à Tokyo, ce qui va obliger les basketteurs français à mettre demain leur réveil à 7h du matin pour préparer au mieux ce rendez-vous historique.
Et on le mettra également, le réveil, nous suivrons ça bien sûr dans la matinale de France Inter.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Sébastien Léas, ça faisait longtemps, hein, le retour de la pluie cette nuit.
Effectivement. La journée de demain s'annonce particulièrement agitée, hein, puisque dès cette nuit, des averses orageuses vont aborder la Bretagne et une perturbation pluvieuse va se mettre en place sur l'Aquitaine. En s'enfonçant sur le pays, cette perturbation va donner des pluies localement soutenues et orageuses. L'axe entre le Languedoc-Rhône-Alpes et la Franche-Comté sera particulièrement arrosé demain, avec même des risques de grêle. Soyez donc prudents, hein, si vous êtes ou si vous allez dans ces régions demain. Au fil de la journée, les averses et les orages du nord-ouest vont aussi se propager vers l'est, traversant le bassin parisien, les Hauts-de-France, le centre-Val de Loire et le Limousin, et atteignant la Bourgogne et la Lorraine avant la fin d'après-midi. Une accalmie se dessinera tout de même sur les côtes atlantiques et le littoral de la Manche, avec un ciel plus lumineux et un temps plus sec. En Provence, les périodes ensoleillées du matin laisseront place à un ciel plus nuageux l'après-midi, avec des averses sur les hauteurs. Et puis en Corse, le soleil brillera sans partage du matin jusqu'au soir. On verra d'ailleurs sur les températures, hein, qui atteindront jusqu'à 36 degrés sur l'île de Beauté. Sur le reste du pays, en revanche, on sera au 12e jour consécutif sous les normales de saison. Prévoyez 19 degrés au Havre, 20 degrés à Nantes, 21 degrés à Lyon, 22 degrés pour Paris, mais tout de même 29 degrés à Marseille.
Et bon week-end quand même. Merci Sébastien Léas de Météo France.